Podcast, épisode 285, de Mal en Pis, partie 2. Enregistré le 9 septembre 2022.
Alors, on va parler infrastructure. Et le premier article, c'est Nvidia qui s'est vu interdire par le gouvernement américain de vendre ses processeurs d'intelligence artificielle les plus puissants, les A100, je crois. Donc, il a mis en place une restriction via ce qu'ils appellent le export control. Je ne sais pas si... pareil, pour les gens qui ont connu AOP, les gens encore plus anciens ont dû se rappeler que le système de chiffrement était limité à genre...
Ah oui, c'est vrai.
48 bits crac-crac par la NSA trop facilement. Ça, ces restrictions-là, des chiffrements plus élevés étaient réduits aux sociétés américaines et c'était pareil, la notion d'export control. Et donc, par un peu de rétro-analyse, parce qu'Nvidia a dû dire bah voilà, il y a tant d'argent qui ont été faits en Chine qui peut-être ne vont pas pouvoir être. Effectivement récupéré dû à cette restriction, puisqu'on va honorer cette restriction, ils ont pu deviner à peu près que Nvidia faisait 10% de son chiffre d'affaires en Chine.
Ce qui est quand même conséquent.
Donc là, la guerre économique continue.
Un truc qui était assez bizarre, c'est... moi, j'ai été compte, alors que j'y connais rien dans le domaine, juste une semaine ou deux avant qu'ils annoncent ça. Donc, j'ai été contacté par LinkedIn pour faire du consulting sur l'utilisation de ces processeurs A100, H100 de NVIDIA. Alors, est-ce que c'était déjà lié?
Tu étais sur LinkedIn ou par LinkedIn?
Au travers de la plateforme LinkedIn, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Et qui me disait, ouais, on vous paye autant que vous voulez. J'y connais rien là-dedans, pourquoi vous contacter? Qu'est-ce qui, dans mon CV sur LinkedIn, peut vous
Parce
faire
que
croire
dis,
que j'y connais quoi que ce soit?
Intelligence artificielle, Google.
Ouais, blablabla, bon, il y a des moments où j'ai dû parler un peu d'intelligence artificielle, mais il y a trois fois rien sur mon LinkedIn là-dessus. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bizarre. Et puis juste après, je vois l'annonce, mais attends, c'est un complot ou quoi? Ou il y en a qui savaient que ça allait arriver et du coup ils sont en mode panique sur qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de ces chips là, ou je sais pas, j'avais trouvé ça trop bizarre.
Bon, après on voit
alors que moi je suis personne hein, niveau Nvidia plus IA tout ça.
Après on voit bizarre. Qu'il y a une forte limite à la production de ces choses là donc on peut pas les acheter et les avoir le lendemain dans sa boîte aux lettres. Il y a quand même un temps de latence de ce que j'ai pu comprendre, alors ça vient pas de Google,
après,
mais y compris
aussi,
chez les cloud providers qui luttent un peu pour avoir...
Après, on retrouve maintenant un peu plus des cartes graphiques, au fait, sur le marché, avec la baisse du Bitcoin, vu que ça devient moins intéressant de miner du Bitcoin. Donc, est-ce que pour les A100 et les H100, on pouvait les utiliser aussi?
Je crois que Nvidia, ils avaient quand même fait des efforts d'ingénierie pour que ça soit moins intéressant pour le Bitcoin, mais quand même intéressant pour le reste, et l'intelligence artificielle.
Ouais. Ils arrivaient, en fait, à distinguer ce qui était... pour du graphisme.
Un chemin efficace pour le Bitcoin.
Versus, du Bitcoin. Donc, on diminue la performance de la puce, ce qui était assez amusant.
Voilà. Autre bonne nouvelle. Après 23 ans, un internaute arrête d'utiliser son propre serveur email et s'appuie sur un des fournisseurs importants du marché. Il explique pourquoi c'est devenu impossible. Alors, si vous avez vous rappelez, vous avez peut-être si vous avez une mémoire auditive, Arnaud qui râlait autour de ça, moi aussi, parce qu'effectivement, quand on essaie de maintenir un serveur et envoyer des emails, donc via SMTP à d'autres gens, eh ben, c'est pas facile. Il y a des fois, ça arrive pas, on sait pas pourquoi. On est blacklisté, on sait pas trop pourquoi. Bref. Donc, on peut pas vraiment avoir un service fiable, en fait, de dire, on va recevoir les emails ou les emails vont être reçus. Et donc, ce que dit l'article, c'est que ces services-là, ils sont entre les mains de gros acteurs, Google, Microsoft, Yahoo, etc., qui ont des algorithmes de filtre pour essayer de combattre l'approche chat et la contre la souris avec le spam, en fait. Et du coup, on est un peu... déjà, il faut mettre en place des niveaux assez élevés de fonctionnalités comme le Demark, le
Dekim.
Voilà, Dekim et d'autres trucs qui sont pas forcément super simples. Disons qu'il n'y a pas de librairie qui te, en un clic, qui te le mette en place si tu t'appuies sur SendGrid ou, pas SendGrid, pardon, SendMail ou voilà, ou PostFix ou des choses de base. Donc, maintenir son truc, ça demande un peu de tas, des procédures à la main, bon, c'est un peu pénible. Il dit aussi que les règles sont assez obscures. D'un coup, on est blacklisté sur un bloc entier d'IP. Donc, si on a un VPS et qu'on est dans cette bloc d'IP, bah, pof, on n'a plus d'email, on ne sait plus pourquoi. Faut attendre. donc, il dit, bah là, il faut se réveiller, faut trouver une solution. Là, on en parle de Twitter, mais les emails, c'est assez fondamental. Et aujourd'hui, c'est extrêmement concentré à cause de ces contraintes. Après, il avait une approche en disant, bah, du coup, en fait, on peut pas rentrer, il y a un oligopole au niveau de la concurrence. Je crois qu'il y avait une réponse dans le thread Twitter, justement, autour de quelqu'un sur Hacker News qui expliquait qu'en fait, c'était quand même plus la pression des spams et qu'ils essaient de faire au mieux, mais qu'effectivement, il y a des choses où ça passe pas. Je sais qu'Yahoo, par exemple, à un moment, moi, je pouvais plus, ils avaient une règle assez curieuse et c'était impossible. Je pouvais plus passer. Et l'alternative, c'est quoi? C'est de passer chez quelqu'un dont c'est le métier, mais c'est maintenant, bon, on a Google Mail sur les noms de domaine là, qui est devenu payant là, depuis longtemps maintenant. Et du coup, c'est voilà, faut trouver 3 à 5 euros par adresse qu'on veut utiliser, ou en tout cas compte qu'on veut utiliser. Et pour des utilisations assez casual, genre, bah tiens, j'aimerais bien telle adresse email, parce que pour un peu du vanity email, en fait, ça devient économiquement pas viable, du coup, ça réduit un peu les usages qu'on pourrait avoir. Voilà.
Tout ça à cause du spam, quand même, ça, au final.
Ouais. Alors, on va passer au nuage, au cloud. Avec encore une mauvaise nouvelle, en fait. C'est un peu la fête.
Décidément, là, c'est la rentrée, c'est la fête. Là, ouais.
Heroku annonce la fin de son étage gratuit, en fait, de ses quotas gratuits. Il a carrément éliminé le plan. Ça fait 10 ans qu'ils avaient un plan gratuit. Après, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui approchent en disant, on vous donne... $1000 de crédit et vous en faites ce que vous en voulez sur les services que vous en voulez et puis après vous mettez votre carte de crédit. Et Roku, c'était tant que vous faisiez tant de requêtes par seconde, tant d'usage disque, etc., vous étiez en dessous. D'ailleurs, il y a longtemps, tu avais fait un blog sur ton usage de ton blog, je crois que tu hostais sur Google App Engine et qu'il y avait eu une évolution des prix et que tu avais dû faire du cost optimization development.
C'est ça, ouais. Voilà. Après, pour autant, tu vois, Google App Engine a toujours gardé, et je pense gardera toujours son... Enfin, je dis ça, je touche du bois. Gardera toujours son free tier, son étage gratuit. Et c'est vrai que... Enfin, on voit souvent... je sais pas si tu as vu passer ce genre d'article-là, mais les gens qui parlent... tu sais, toutes ces petites nouvelles startups qui se disent « Alors, est-ce que je dois faire ou non un plan gratuit ?» Et bien souvent, pour les petits acteurs, les plans gratuits, en fait, c'est 90 ou 95% du travail de support, des demandes de fonctionnalités, etc., des gens qui vont râler, et la conversion en mode payant, si t'en convertis 1%, quelques pourcents, t'es super content. Et du coup, il y en a qui maintenant aujourd'hui disent vaut mieux directement passer sur, enfin faire l'impasse complètement sur ces modes gratuits, parce qu'au final, au moins ceux qui payent vraiment pour quelque chose et on n'aide que eux et on peut donner toute notre attention. Et on s'aperçoit que
après, c'est pas des cours d'adoption que les venture capitalistes acceptent. Tu vois, un Evernote versus un truc qui est payant depuis le début, genre un BER que moi j'utilise, il y a une boîte qui doit être 10 personnes et une autre qui je ne sais pas combien de personnes. C'est pas les mêmes objectifs finaux.
C'est clair, ouais. Et en tout cas, si on regarde, ou même, tu vois, les plateformes comme Google App Engine aussi, ça représente quand même, en vrai, un sacré budget d'arriver à faire tourner une telle infrastructure gratuitement pour finalement beaucoup d'utilisateurs.
Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué. GitHub... Donc, je, Je ne sais plus avant le rachat Microsoft à quel niveau ils étaient profitables ou pas, mais il me semblait qu'ils étaient plutôt sur une courbe correcte. Mmh. Et eux, c'est vraiment, il y a les 3 à 5% des gens qui vont payer qui financent
tout le reste. Bien sûr. Fait.
Et du coup, c'est 95% de gens qui sont... qui ont un usage sur le budget marketing, en gros, hein, de ouais. GitHub, parce que GitHub, c'est pas open ou quoi que ce soit. Voilà, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un équilibre assez compliqué à trouver. Et dans le cas de l'exécution, là, que ça soit GitHub Action, Heroku, Google App Engine, bah oui, on a des bitcoins qui arrivent, donc qui abusent de la plateforme pour ça, donc faut faire la chasse à ça. Ouais. Et c'est beaucoup d'énergie pour les équipes opérationnelles.
Ouais, on a des équipes dédiées qui font la traque à la fraude, à l'abus.
Mais du coup, ce que disent certains, c'est qu'il y avait des startups qui étaient là, alors qu'utilisaient la version gratuite pour leur environnement de test ou alors pour explorer une nouvelle idée. Donc, il y a tout un univers d'explorer à zéro coût qui sans faire de
zéro sur
héros. C'est ça. qui disparaissent en fait.
Donc voilà. Alors, faut plus l'appeler zéro coût, faut l'appeler
c'est beaucoup de coût
non nul.
Ouais. Bon, après on voit que tout le monde il y a tous les prix qui augmentent, on va le voir après, mais je vais dire des gens, donc qu'est-ce que je peux aussi économiser
l'essence, l'électricité, la viande.
Alors, on va passer à l'outillage.
Ouais, il y a un site, un énième site, on pourrait dire, sur les comparaisons de police de caractère pour la programmation.
Oui, et non pas de force de police.
Voilà, programmingfonts.org, qui permet de comparer plein de polices. Il y a une belle liste, je ne sais plus combien, il y en a 111, j'avais noté.
Il y en a trop, en fait. Je sais pas, 112, moi j'en vois.
Attends, 112, oui, il en a peut-être ajouté, du coup, depuis. Et en fait, c'est vrai que quand il y en a beaucoup, après, c'est difficile de comparer.
Est-ce que je prends Victor Mono ou Spleen ou SK Modernist Mono, tu vois ? Moi, je sais pas.
Et en fin de compte, moi, ce que j'avais... c'était sur un autre site, je ne sais plus si je l'avais partagé, celui-là, à l'époque, où en fait, il y avait un système de comparaison 2 à 2, et où en fait, tu pouvais petit à petit éliminer celle que tu aimais ou que tu aimais pas.
Genre un Google Fight.
Ouais, un peu comme un Google.
J'aime ça, j'aime pas ça. Ouais, c'est pas bête,
Et du coup, parce que là, tu vois, je veux dire, si tu mets les 112 comme ça, enfin, tu vas jamais y arriver. Ouais. Et du coup, il y a quand même un système de filtrage aussi sur en haut à gauche, tu peux quand même définir. Alors, c'est genre
si t'as des ligatures ou pas.
Si t'as serif ou pas.
Le zéro avec une barre.
Si tu veux différencier le zéro du haut, etc. Donc, tu peux quand même faire une sorte de présélection de choses que tu veux vraiment avoir ou pas. Donc, par exemple, voilà, si tu aimes bien les ligatures, moi, j'ai pas trop d'avis, mais finalement, je commence à trouver ça joli. Et tu vas retrouver Firacode, JetBrains Mono, qui sont très connus. Et c'est vrai que quand je compare, alors pourtant, attends, je sais même plus ce que j'utilise aujourd'hui dans Visual Studio Code et IntelliJ, surtout que j'ai changé d'ordi, donc je crois que j'ai pas refait de mes configs et tout ça là-dessus.
Tu parlais de Firac, tu aimais bien.
Mais Firacode, souvent, alors que ce soit sur ce site-là ou un autre que j'avais trouvé où on pouvait faire des comparaisons 2 à 2, Firacode, je le trouvais assez lisible, assez élégant, et les trucs classique, hein, entre les 0, O, etc., entre le I, 1, L, petit L, tout ça, j'arrivais à facilement retrouver quel caractère et lequel sans aucune confusion. Et au niveau, tu vois, espacement des caractères, la baseline, etc., Firacode, je trouve ça assez joli, assez élégant. Donc voilà, là, avec 112 polices de caractères, si vous n'arrivez pas à trouver celle que vous voulez...
C'est une semaine et voilà. Dans 20 ans, vous avez votre retour sur investissement.
C'est ça. Voilà.
Sinon, Michael Estria pointe une vidéo expliquant les nouveautés autour d'Eclipse. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer les nouveaux trucs d'un IDE. Mais là, du coup, c'est visuel, donc c'est un peu plus facile. Donc, on ne va pas essayer de vous l'expliquer trop. Cliquez dessus, je crois que ça dure un quart d'heure, hein, à peu près. combien ? Ouais, 15 minutes et 3 secondes. Voilà. Puis si vous le faites à x2, ça fait 7 minutes et 30 secondes. Voilà, notamment, il y a pour des codes snippets, le content assist qui est plus rapide, donc qui compare la version d'avant, la version d'après, le support des concepts plus récents comme les classes scellées dans Java, avec surtout des quick fix qui sont amenés autour de ça pour aller convertir le code. Des fois, on n'est pas forcément familier. Tiens, est-ce que je pourrais l'utiliser ? Ben là, ça propose, donc c'est aussi une façon d'apprendre que je trouve assez intéressante. Mmh. Dites-le à vos collaborateurs, parce que des fois, ils disent « What the hell is this ?» Et bref, donc dites quand vous utilisez des nouvelles fonctionnalités, parlez-en, etc. Voilà, et je ne savais pas, mais quand on fait un git blame, ça permet de dire « Bah voilà, il y a un truc à un moment, ça marchait, il y a un truc, ça marche plus, voilà mon test, et trouve-moi le commit qui a cassé ça. » Et donc ça, c'est toujours... Alors ça c'est pour le non ça c'est pas git blame ça c'est autre chose mais c'est utile aussi ça. Git blame c'est de dire bah il y a telle ligne qui a été changée par telle personne et donc pour pouvoir aller avoir une conversation utile sur bah tiens t'avais tel changement mais pourquoi voilà. Et ça c'est tout cassé quand quelqu'un dit ce qui est super important c'est de passer de espace à tabulation ou de rajouter un espace entre avant chaque parenthèse enfin bref. Et du coup il y a dans Git, la capacité d'exclure certains commits, notamment tous ces fameux commits de reformatage, pour que le git blame il ait une valeur au sens fonctionnel du terme et pas juste de beauté. Et donc, en fait, on peut avoir un fichier qui est le git ignore rev, dans lequel on va pouvoir rajouter, alors c'est à la main, mais on peut rajouter la liste des références de commits qui sont à exclure dans un git blame. Donc, je ne connaissais pas. Je trouve ça intéressant. Et en parlant de Git, il y a Oh Shit Git, qui est les 10-12 problèmes dans lesquels vous vous trouvez et comment s'en sortir quand on est dans Git. Donc moi, il y a notamment pour nettoyer la branche principale quand j'ai commité un truc dans la branche principale alors que je voulais faire une branche de travail. Souvent, moi, c'est bon, je renomme et je recrée la branche principale à partir d'Upstream. Et bon, il y a une façon un peu plus, pas correcte, mais un peu plus sioux de le faire dans Git. Donc, moi, par exemple, je ne connaissais pas, j'utilisais la méthode un peu bourrin. Mais ça montre un peu tous les trucs, y compris je crois que c'est la dernière solution, c'est rm-fr du repo et git clone. Tu recommences à dire. Bah, qui ne l'a pas utilisé les 15 premières années d'utilisation.
Quand même.
Voilà. Donc, c'est pas très long comme article. Ça peut être intéressant. Moi, c'est pareil, le head tilde et le head caret, oh, je ne sais jamais.
Je ne me rappelle jamais.
Quoi, ouais, ce que ça veut dire. Même ouais. Head, qu'est-ce que ça veut dire, head? Eh bien, ça veut dire quelque chose. Je crois que je n'ai pas mis l'article là, mais head, c'est ça. Ça a une signification et ça a une représentation dans le point git, quelque part. C'est le dernier commit sur la branche active, sur la branche que vous avez travaillé. Donc, si vous effacez la branche, le head, il existe encore. Enfin, voilà, il y a des choses un peu sioux dans git des concepts qu'on n'a pas besoin d'aborder dans l'usage quotidien, mais des fois, on l'utilise sans trop savoir l'incantation magique. Mais il y a des raisons. Voilà, on va passer à l'architecture et notamment un focus qui nous a fait une évolution des tendances au niveau de DevOps, Cloud, DevSecOps, NucSecOps. Non, je rigole. Enfin, je rigole pour l'instant, mais ça se trouve, ça va devenir un truc. Et donc, ils ont cette fameuse courbe en forme de bell curve, de courbe de bell, avec les innovateurs très à gauche, ensuite les early adopters, ensuite la early majority, la late majority. Donc en innovation, la notion de data observability ou data mesh, le cross cloud, l'automatisation d'infrastructures cross cloud, nos copy data sharing, ce genre de choses.
WebAssembly dont on a parlé.
Ouais. eBPF qui permet d'intégrer des plugins au niveau du noyau Linux pour faire de l'introspection très bas niveau. Voilà, en early adopter policy as code avec notamment open OPA, open policy agent, ce genre de choses. ChatOps, what ChatOps, ouais.
C'est encore un truc ça.
DevEx, developer experience qui est un early adopter, mais je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que les le critère de developer experience en fait a monté en termes de critères importants pour les équipes en fait. En tout cas chez les early majority. Sur la early adopter. Ensuite early majority, GitOps, SRE, Team Topologies, qui est un bouquin que je suis en train de lire. Alors bon, il y a beaucoup de bouquins qui se regroupent, mais c'est sur comment est-ce qu'on... Quel est l'impact de l'organisation sur le travail? Donc, c'est la loi de Conway et surtout ben, des exemples de, d'architecture de vos équipes pour architecturer votre architecture telle que vous aimeriez l'avoir. Donc, ça, c'est plutôt pour les... Je ne sais pas si c'est pour les managers, c'est les leads d'équipe, les managers, voilà, c'est un bouquin intéressant à lire. Voilà, et puis il y a le late majority, on va pas trop aller dans le détail. Donc eux, ils parlent notamment de data observability, c'est regarder la qualité de vos données un peu en temps réel, savoir si il y a une dégradation, ce genre de choses. Serverless everything, donc pouvoir dire bon, on scale à zéro si on consomme pas, notamment maintenant même pour les bases de données. Alors serverless à la base c'était vraiment que pour les
le compute
fonctionnel, voilà, sans données, mais là on parle même de bases de données qui en gros consomment rien si on les touche pas, mais coûte beaucoup si on les touche. Voilà, la FinOps, qui est un peu ce que tu as fait pour ton blog, c'est-à-dire optimiser les opérations par rapport au coût financier de l'application par rapport à son gain aussi, voilà. eBPF, j'en ai parlé pour injecter du code. Wasm pour le service mesh, on en a parlé justement, ça connecte là, les fameux plugins pour aller faire des interceptions. Des
choses proxy et autres.
La protection de la supply chain encore faible, même s'il y a, bon, il y a plein d'acteurs qui existaient avant, il y a un repositionnement parce qu'il y a une prise en une réalisation de des problèmes autour de ça. Alors, moi je suis pas sûr que je les suis là-dessus, mais sur le low code no code qui mature pour des besoins d'ingénieurs ou une approche plus légère pour des pour moins avoir besoin d'ingénieurs, ou alors une approche plus légère pour une équipe d'ingénieurs mais qui sur des fonctionnalités périphériques. Et voilà, et l'expérience développeur, justement, qui influence les décisions dans les choix, en fait, en plus du prix. Voilà, on va passer à la méthodologie. Comment il nous appelle
Nicolas Martignol.
Nicolas Martignol.
On ne l'appelle pas le Touilleur Express, c'est le nom de son blog.
Touilleur-express.fr. il nous a fait un article sur la carrière d'un contributeur individuel. Alors moi, j'ai vu des ressemblances et des différences d'ailleurs par rapport à ce qu'on fait chez nous, chez Red Hat ou chez d'autres grands éditeurs. C'est un sujet qu'on avait commencé à toucher un peu avec Didier Girard dans l'interview intéressante qu'on avait fait avec lui au printemps dernier, de mémoire. Donc c'est dans le cadre de Doctolib. Et donc il explique, voilà, on devient donc software développeur. Ensuite, senior, c'est le premier niveau où on estime, voilà, on a l'autonomie et l'aisance. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle senior quelque chose.
Ça ne veut pas dire qu'on marche avec une canne.
Hein. Non, parce qu'il est encore plus âgé en fait. Et ensuite, vous avez une branche qui commence à se former. Soit vous voulez vraiment développer l'humain, donc coacher vos pairs, et ça c'est plutôt la branche managériale. Soit vous voulez continuer à être contributeur individuel. Mais ce qu'il explique, c'est que dans tous les cas, ce qui monte. Et d'ailleurs, il y a une matrice de Rand quelque chose, je ne me rappelle plus son nom, qui met des équivalences justement entre les leadership managériales et le leadership de contributeur individuel. Et ce qui est demandé, du coup, c'est du leadership, c'est-à-dire l'impact qu'on a sur la société par nos actions, alors j'espère plus que par notre présence, mais en tout cas par nos actions, que ça soit sur l'organisation, sur les équipes, sur le code, etc. Je pense que ça demande une taille aussi. Alors, si vous êtes 10 dans la société, peut-être mettre en place. Si vous grossissez, c'est des choses intéressantes. Et c'est un moment où on devient un contributeur individuel. Alors, ça ne veut pas dire coder du matin au soir et d'être un 100X développeur. En fait, pour avoir un impact, alors peut-être vous êtes un 100x développeur, mais ça doit être, c'est plus rare que d'être capable, de par sa communication et son influence, d'avoir un impact plus large, en fait. Du coup, ça, que vous soyez manager ou un contributeur individuel de haut niveau, alors certains l'appellent staff engineer, d'autres principal engineer, bon, il y a des noms qui sont un peu intervertis selon les sociétés. Mais ce qui est important, c'est, bah, oui, il y a votre socle technique qui est important, une capacité de faire des POC ou de montrer le chemin, mais aussi votre communication, être capable de marketer l'idée, d'aller présenter ça à des décideurs pour qu'ils puissent faire les bons choix. Et c'est très vrai, moi, je trouve, c'est que il faut occuper le rôle avant d'être reconnu. C'est-à-dire, oui, je suis déjà au niveau staff engineer et du coup, je vais pouvoir aller construire mon package de promotion en disant, bah voilà, je fais déjà ça, je fais déjà ceci. Donc, il y a beaucoup des choses à faire, des initiatives individuelles à faire, en fait, pour monter de grade. C'est pas genre, bon, bah maintenant, ça fait 3 ans que je suis là, à ce poste, je veux monter, comment je fais, c'est vraiment plutôt dans l'autre sens. Et pour faire ça, justement, il y a des choses assez, des listes de choses qui sont attendues. Et puis, le promotion, il y a un comité de promotion. Alors, chez eux, ils se réunissent 2 fois par an. Donc, c'est pas si souvent que ça. À un moment, quand on se dit, ah, moi, je vais être promu, genre, à la fin du mois, sinon. Bon, bah, c'est des cycles plutôt de 6 mois. Après, il y a des.
Moi, ce que je. Chez nous, on voit ça aussi plutôt tous les 6 mois. Hein.
Ouais, moi aussi. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que c'est de toute façon des. Pour montrer qu'on a évolué dans le truc, ça se fait pas en genre regardez, j'ai fait un test unitaire. Voilà, c'est des travaux plus longs autour de ça. Ah oui, l'équivalence track technique leadership, c'est la matrice de Radford qui est utilisée, qui est dû sortir de je sais pas quel Harvard ou je sais pas quoi. Et donc il y a des ponts en fait, donc il explique aussi les ponts entre chaque. Et nous on a cette mode là où on a un engineering manager, donc à différents niveaux, on a des niveaux d'engineering manager et souvent l'engineering manager est pairé avec un leader, un contributeur individuel pour que le côté gestion de l'équipe puisse être vraiment focalisé par l'engineering manager et les priorités, choses comme ça, tandis que le contributeur individuel est là pour faire la différence technique autour de ça. Donc c'est vraiment une paire qui travaille ensemble. Voilà, donc staff engineer, ça ne veut pas dire que vous travaillez pour toute la société, mais vous avez l'expérience et les connexions à travers la société pour faire la différence, dire bah tiens, quand il y a ça, t'as pensé à ça, ou peut-être qu'il faudrait plutôt travailler en coordination avec ça, parce que sinon il va y avoir des conflits, voilà, et avoir une vue sur l'extérieur plus globale en fait. Et il a fait un deuxième article qui est une scénette en fait, un exemple d'une journée typique d'un staff engineer, et ça montre comment un staff engineer c'est pas dans sa tour d'ivoire tout seul, c'est interrompu, ça se rappelle de quelque chose, ça fait des connexions, ça connecte des gens, ça aide un peu, et le pourcentage de code est pas si élevé que ça. Voilà, tu voulais rajouter un truc là autour de ça ou...
Non, après on voit dans des boîtes peut-être encore un peu plus grosses, après d'autres rôles qui, pareil, ont leur propre échelle. Tu vois, par exemple, tout ce qui est product manager versus les ouais. engineering lead versus les engineering manager. Donc, ça se... Comment on pourrait dire ça ? Enfin, y a des ramifications, des spécialisations.
Après, product manager, c'est une... spécialisation de contributeur individuel. C'est vrai que là, Nicolas parlait du développeur contributeur
oui.
individuel.
Ouais. Mais suivant après, si tu veux, la taille des projets ou des features de gros projets, etc., tu peux avoir, tu peux être tech lead et finalement faire le boulot du PM ou sur des plus gros projet, ouais. produit, le PM qui va donner les directions, mais après ouais. c'est les tech leads qui vont les dérouler, les engineering managers qui vont essayer de chapeauter ça parce que ça implique différents projets. Donc ça, ouais. voilà, ça peut être assez complexe. Et donc il y a des ponts hein, entre ces différentes
London Bridge.
Ouais, London Bridge is down. Mais c'est pas forcément facile de passer de l'un à l'autre. Autant, enfin, je veux pas dire que passer manager c'est plus facile, mais par exemple passer PM, ça peut être plus compliqué des fois que engineering manager. Bon, donc c'est voilà, c'est pas toujours évident de passer d'une branche à une autre.
Tu trouves que passer product manager c'est pas facile?
Alors après, bon, moi j'ai ça en tête parce que, enfin, il y a un peu des spécificités aussi. Par exemple, chez Google, il y avait un rôle de product manager qui m'attirait. Et bon, là c'est
pas
vraiment
attiré par toi au final.
Ouais, c'était surtout qu'il me trouvait un peu trop loin des États-Unis, par exemple.
Ah oui. Ça.
Mais bon, ça
je l'ai
c'est
vu aussi.
Bon,
et ça c'est plutôt le manager qui est un peu.
Alors que manager, je peux plus facilement manager des gens proches, tu vois, dans ma géographie, tu vois.
Donc, il y a des fois, moi, je trouve que c'est un peu bullshit, mais je sais que c'est dû à des directeurs qui veulent avoir la conversation de couloir, et du coup, paf.
Et puis, des gens qui n'ont pas remarqué que finalement, même pendant les 2 ans de pandémie, de confinement, etc., on avait quand même très bien réussi à travailler sans être forcément à la machine à café ensemble, mais bon. Ouais. Et je trouve qu'il y a certains passages qui sont peut-être plus ou moins faciles. Après, tu vois, il y a, par exemple, chez Google, il y a un truc qui est intéressant, c'est le système des rotations, où en fait, tu peux dire, tiens, pendant 6 mois, je vais travailler, main dans la main avec un PM, un engineering manager, etc., pour essayer de voir si, déjà, ça te convient vraiment, le rôle qui t'attirait, mais est-ce qu'il te convient? Et pour voir, après aussi pour les autres, pour valider si tu peux effectivement faire ce rôle. Parce que là, tu auras au moins 6 mois d'expérience. Est-ce que tu as été capable de le faire ou pas? Donc, il y a ce système de rotation-là dans certaines grosses boîtes qui est assez intéressant pour pouvoir tester et pour pouvoir faire la migration. Parce que sinon, en fait, par exemple, pour continuer l'exemple chez Google, sinon, il faut repasser les mêmes séries d'entretiens que tu passes pour rentrer chez Google, si tu veux passer directement dans un autre rôle. Fais des rotations, ce sera simplifié. Ça veut dire que tu refais pas d'entretien, mais voilà.
Donc, en tout cas, ça m'a fait penser à ce film français, je crois, avec Gérard Depardieu et peut-être un Pierre Richard, où ils sont attachés, tu sais, ils ont une...
C'est pas le grand blanc avec une chaussure.
Je sais plus, peut-être. Mais en tout cas, quand tu parlais de rotation, t'es main dans la main, je le voyais attaché, tu sais, le gars qui est là, qui te tire. Donc, là.
Ouais. Bref. C'est ça.
Allez, on va passer à la loi société-organisation qui, là encore, est plutôt au côté négatif des bonnes nouvelles. Donc, le premier, c'est Spotify qui explique... à ses équipes, mais du coup, ça a leaké ou ça a été annoncé publiquement aussi, c'est le...
Spotify ou Shopify ?
Shopify, oui. Qui fait un licenciement, on va dire, de masse, parce que 10% des gens, c'est pas gros. Mal. Et donc, en gros, c'était à effet immédiat, même en France, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que les gens, ils pouvaient partir, être libres dès le lendemain, enfin, ils n'avaient plus accès aux connexions, même si... Après, la loi française fait que tu restes tes 3 mois. Et donc, pour aider à faire passer ça, il y a les congés payés, une aide à un nouveau job, ou une période de sevrance payée, enfin, ce genre de trucs. Et ce qui était intéressant dans le côté Shopify, c'est qu'il explique, en fait, le raisonnement. Il dit, on a fait un pari avec le Covid. On a vu l'augmentation de la vente en ligne à fond de nos clients, en fait, les vendeurs individuels. Et on s'est dit que ça allait plus revenir en arrière, qu'on a été dans le nouveau monde. Et en fait, ce qu'ils voient dans leur courbe, donc ils ont embauché en fonction pour vraiment pouvoir accélérer l'adoption, etc. Et ce qu'ils voient, c'est que la courbe, elle redescend sur le taux de croissance comme s'il n'y avait pas eu de Covid, en fait. Et du coup, un mauvais pari. Et du coup, il faut qu'ils se recentrent sur les choses plus cœur de métier plutôt que les explorations qu'ils avaient faites. Du coup, réduire aussi les coûts. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, il y a un article...
Mais il y en a eu d'autres dans la tech.
Figaro, en l'occurrence, qui explique que c'est vraiment assez général dans la tech et que ça vient de la récession, des résultats décevants. Il y a eu vraiment une espèce de krach boursier des valeurs technologiques assez fortes avec une perte d'un quart de la valeur. Et du coup, ça plus les resserrements des politiques budgétaires pour essayer d'éviter l'inflation qui est due aux tensions au niveau des ressources primaires et enfin dû à la guerre, enfin dû à tout ça. Donc les projets qui étaient semi-viables le sont plus, les projets qui étaient ok d'aller explorer parce que le coût de l'argent entre guillemets était assez faible, bah devient plus viable. Et du coup, réduction de la force de travail dans ces sociétés-là. Donc en fait, il y a deux modes. Soit on dit, on n'embauche plus et on essaie de faire le dos rond et après on continue. Donc il y a des sociétés qui essayent de faire ça. Et il y en a d'autres qui sont dans le mode, on fait un nettoyage et on repart bien. Par exemple, historiquement, parce que je n'ai pas parlé du futur, je ne sais pas, mais historiquement, Red Hat était plutôt le mode Doron. Historiquement, on a vu que IBM était plutôt du mode on fait un réalignement et on vire assez régulièrement. Voilà, donc j'ai pris deux exemples qui venaient de chez moi, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais voilà, on voit qu'il y a des approches managériales différentes, on va dire.
Après, dans des boîtes, par exemple chez Google, il y a donc Sundar Pichai, le CEO, qui a annoncé qu'on gelait les embauches.
Ouais.
Après, historiquement, c'était quoi la précédente récession
2008, c'est
là. Ouais, 2008, la plus grosse en tout cas, où
subprime, ouais.
On avait réalisé à l'époque que de faire quelque chose de trop drastique aussi, ça empêcherait quand même le rebond après coup, parce que après, c'est difficile de réamorcer, si tu veux, la pompe de recrutement. Et du coup, c'est des fois un petit peu à double tranchant. Donc, ça peut être une bonne solution à court terme pour les actionnaires, le cours de la bourse, les attentes
des investisseurs.
Des investisseurs et puis ceux qui disent, est-ce qu'ils s'attendent à ce que tu fasses tel pourcent, etc. Je trouve plus le terme. Les analystes, merci. Et à l'époque, on avait, semble-t-il, appris la leçon et on a l'impression des fois qu'on refait encore un peu les mêmes erreurs et de passer à côté. Alors après, c'est un recentrage aussi quand même sur l'engineering, etc. Enfin, vraiment le cœur de métier et c'est encore plus strict dans les parties non-cœur, en tout cas chez les gros acteurs, quoi.
Ouais. Mais effectivement, il y a des sociétés qui font du coup le pari inverse. C'est-à-dire que là, on a vu Shopify qui avait fait un pari d'accélérer l'investissement pour sortir de la crise du Covid en méga force. Et bon, il se trouve que le marché a pas suivi ça. Mais il y a d'autres qui disent, là, on est dans une période de récession qu'on estime temporaire. Et donc, contrairement à nos concurrents, non, on va continuer d'investir, ce qui fait qu'on va ressortir top of the pop avec un produit différencié. Ouais. Et du coup, tuer le marché et avoir les compétiteurs qui vont devoir ramer pendant X années pour rattraper. Pas facile, hein, c'est pas notre argent. Donc... en tout cas, il y a eu 88 000 licenciements en 3 mois. Versus 5 000 un an avant, en 2021. Donc il y a un gros mois, notamment juin, juillet, août, où ça a pas mal cassé. Et donc il n'y a personne qui est épargné, que ce soit du gel, que ce soit de licenciement. Donc Apple, Microsoft, Amazon, TikTok, Shopify, Snapchat, Netflix. Donc tu as parlé Google, parlé du gel. SoundCloud, moins 20% d'effectifs. Netflix, moins 40% en bourse. Donc,
et pourtant, ils augmentent le prix des abonnements. Hein, Netflix, justement. Amazon Prime, tout ça, merde.
Ouais, ouais. Voilà, en plus, il y a l'inflation.
Nous aussi, on le paye.
Il y a l'inflation aussi. Donc
ça, ah, ouais.
Et donc, c'est ce que je disais, l'argent facile arrête. Et donc, le cycle, ce qu'ils appellent, dans l'article, le cycle d'hyper-acquisition... de clients, notamment grâce à l'hyperinflation, c'est-à-dire l'argent pas cher, on peut investir parce qu'on prend un risque, mais le pourcentage de chances de réussite est au-dessus du coût du prix de l'argent qui était, voire avec des taux négatifs, on a vu. Et donc, quand le taux d'emprunt s'élève, ça change complètement la donne et les ratios de là-dessus. Du coup, impossibilité de lever de fonds, donc il y a eu des startups qui étaient là, On a besoin de lever les fonds, mais ils sont plus là. Du coup, notre politique d'embauche, il faut qu'on la change drastiquement. Et du coup, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a un peu une fidélisation de l'employé qui, en tout cas dans la tech, à un moment, c'est genre « Non, mais moi, je bouge, j'ai des offres. »
The Great Resignation.
Non. Alors, je pense Resignation, c'est genre « Non, mais je sors du marché du travail. » Donc là, c'est encore pire. Enfin, c'est différent. Dans la tech, c'était plutôt « Non, mais il y a tel employé avec une autre première lettre qui me donne plus 50%, donc je me casse. » Et du coup là, il y a visiblement cette approche plus opportuniste, on se retrouve vers des comportements plus protecteurs, du genre non, je vais rester là où je suis, on ne sait pas trop où ça va se passer, comment ça va se passer. Ce qui était arrivé d'ailleurs pendant le Covid et qui s'était vachement libéré en 2021, voilà. Et donc là, visiblement on y retourne un peu. Voilà. Donc, pensez-y. Enfin, je sais pas.
C'est un peu hors de notre contrôle. Hein. On peut pas faire grand-chose, quoi.
Si, tu peux choisir de bouger de boîte ou pas bouger de boîte. Enfin, bref,
oui.
Voir comment ça impacte le truc.
Ouais.
Donc, le cloud de confiance sous le coup, peut-être, du Cloud Act américain pour l'interrogation. Clickbait. Du coup, c'est un article de Next Impact qui est une lecture rapide d'un article de la Tribune, qui est une lecture d'un rapport.
Rapide aussi.
Ouais, je sais pas, parce que j'ai pas lu celui de la Tribune. Mais qui est une lecture d'un rapport d'un cabinet de consultants qui a été. Mandaté par le ministère de la Justice des Pays-Bas sur savoir. Mais bon, alors. Si on utilise des logiciels, des fournisseurs américains un cloud européen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est quand même sous le coup du Cloud Act ou pas? Ils disent peut-être quand même,
peut-être pas.
Et du coup, donc Next Impact a dit si, mais carrément, on est mal. L'approche cloud souverain qui était un peu genre on prend le cloud, mais avec des solutions américaines en termes de software. Ils disent, il y a quand même risque, etc. Et ils proposent de faire ce qu'ils appellent un muraille de Chine en disant, pour refuser tout client américain, tout employé américain.
Donc, faut que la société.
Donc, là, techniquement, vous êtes protégé au niveau du Cloud Act.
Faut que la société soit majoritairement européenne, etc. Donc,
majoritairement, évidemment. Là, ils disent zéro, quoi.
Ouais, donc,
oui, il faut que la société soit européenne.
Enfin, employé zéro américain, ça ne veut pas dire qu'elle n'appartient pas en partie.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Financièrement à un autre acteur.
Ouais. Et après, ils disent après, il faut voir, parce qu'effectivement, si vous utilisez un produit, mettons Cisco, qui lui est d'une boîte américaine, Cisco peut éventuellement avoir sous le coup du Cloud Act à faire des choses.
Ouais.
Donc, ça dépend comment vous utilisez ces fameux produits Cisco, ces routeurs Cisco, avec du TLS, sans TLS. Est-ce que vous mettez le certificat dedans ou pas? Voilà. Donc, c'est ce genre de questions qui sont à poser. Parce qu'en fait, en lisant le truc, c'est ce que tu disais, il y avait un rapport de tweet où il disait, à ce moment-là, même Clever Cloud, il est...
Forcément, ils vont utiliser, des routeurs Cisco ou autres. Donc, même un acteur pur français... Créer, héberger, hoster, diriger, employant tout en France, pourrait être sous le coup du Cloud Act. Donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de travail là-dessus.
Mais Clever Cloud, je crois qu'il réutilise un respirateur artificiel pour faire routeur. Donc c'est bon.
Il va y avoir encore du travail.
En l'occurrence, on n'est pas là pour analyser, c'est juste
non.
Ce qu'on a lu des threads. Après, discuter avec vos fournisseurs la réalité. Ils ont en plus des juristes embauchés chez eux dont le métier est de comprendre ce genre de choses.
Exactement. Et donc, que ce soit, par exemple, tu citais dans les show notes Microsoft ou Google ou autre, travaillent sur ces sujets-là pour être sûr que Cloud Act ne puisse pas interférer. Donc voilà, c'est encore un de ces articles un petit peu quand même sensationnalistes qui font peur, où tu es en train de secouer un truc, oh attention. Donc double lecture nécessaire et se rapprocher de son
vérification nécessaire.
Oui.
Voilà, sinon ça fait longtemps, une petite rubrique débutant. un article. Alors, pour les gens qui connaissent pas, notamment dans l'univers Spring Boot, il y a un site web qui s'appelle baldung.com, qui à la base, c'était un bonhomme qui écrivait des articles. Maintenant, c'est genre, il y a une armée d'éditeurs et tout.
Mais ils font des super tutoriels sur Java. Voilà.
Ils sont des fois, ils amènent du fondamental pour te ramener sur le site et puis tu vas continuer à lire. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un de ces articles fondamentaux sur pourquoi est-ce que quand je divise 13 par 6, je ne trouve pas 2, je ne suis pas sûr.
Attends, ça fait 15, c'est ça.
Et ben, en Java, donc il explique, bah ouais, une division d'entier ramène le quotient, donc la partie entière de la division. Et du coup, une division d'entier ramène un entier qui est l'entier le plus bas par rapport à ça, je crois, comme ça. Et donc, si on veut retourner, si on veut avoir une précision avec du variable, et ben, il faut que, donc ça, c'est dans les règles de la Java Language Specification, donc ça, c'est ça se lit dessus, et ben faut pas faire une division entre deux entiers, mais faire une division entre, par exemple, un double et un entier. Et donc la règle, c'est que on retourne un double si un des opérandes est un double, ou règle un peu moins prioritaire, sinon on retourne un float si un des opérandes est un float, sinon on retourne un long si un des opérandes est un long, sinon on retourne un int, un entier. Donc en fait, il faut caster l'opérande. Une des opérandes, alors typiquement on a tendance à caster la première, mais techniquement c'est pas obligé. Enfin, en tout cas au niveau de l'aspect, c'est pas obligé, mais en général c'est ce qu'on fait. Donc on fait un ouvrez la parenthèse double ou float, fermez la parenthèse, votre entier 1 divisé par votre entier 2, et là vous allez avoir des virgules. Qui seront peut-être pas exactement la bonne valeur, mais ceci est une autre rubrique débutant. Voilà. Donc ça, normalement, ça c'est un truc, c'est le même problème dans beaucoup de langages, mais ouais. C'est un petit rappel du coup pour les débutants. Donc tu parlais des conférences, alors on va essayer de les nommer de mémoire. Donc il y a Jug Summer Camp en ce moment.
En ce moment, ouais, exactement. Jug Summer Camp, alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors moi DevOps, je vais à Hambourg la semaine prochaine pour Code Talks.
D'accord.
Mais bon, c'est pas forcément franco-français. Qu'est-ce qu'on a après
Donc il y a DevOx Belgique.
Alors il y a DevOx Maroc d'abord, du ouais. 4 au 6. Attends, c'est du 4 au 6 ou 5 au 7 Non, 4 au 6 octobre. La ouais. semaine d'après, DevOx Belgique, donc toute la semaine du 10 au 14.
Ouais.
Il y a Cloud Next aussi, accessoirement aux États-Unis. La semaine d'après, il y a DevFest Nantes le 20 et 21 octobre. Mm-hmm. On a, je vais aller à Porto Tech Hub la semaine d'après du 26 au 28. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DevFest Strasbourg le 9 novembre. BDXIO le 2 décembre. Et bon, là, en tout cas, c'est celle que j'ai sur mon calendrier à moi. Et je pense que j'en oublie. Ah, il y a Codeur en scène aussi qui a. Attends, c'est quand Codeur en scène? C'est le 17 novembre et je crois qu'il reste encore quelques jours pour le CFP si vous voulez soumettre.
En fait, moi je voulais soumettre et je peux pas pour des raisons personnelles, je crois, mais j'aurais bien aimé, ouais, parce que c'est pas super long, super loin de chez moi.
Ouais, c'est pas très loin. Attends, et ça fait, j'y suis allé, je crois, une fois pour un des tout premiers, et j'y suis pas retourné. Attends, 17 novembre, ouais. Et ouais, là c'est tout ce que j'ai, top of my mind, comme on dit.
Bon, après il y a la liste d'Aurélie.
D'Aurélie Lache.
Yes.
Avec son site, enfin sa page GitHub qu'on peut forker et compléter, ouais. Etc.
Bon, ouais, tout ça c'est un peu USA. PyCon, ouais, bon, c'est Python.
Ouais.
Bref, on va vous laisser aller voir. D'ailleurs, c'est peut-être une utilisation que Marc pourrait rajouter, là, le truc
qui récupère,
prend l'info d'Aurélie et paf, qui colle.
Paf. Ouais, pas mal.
Dans les news. Mm. Voilà, on va ouvrir ce ticket et puis vous laisser, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Et puis, bah, bonne rentrée à vous. Et puis,
à très vite.
À très vite. Ou pas. On essaye.
Ça marche.
Ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.